Eh bien, ravi de vous voir aussi nombreux pour ce moment qui est toujours bluffant, important, émouvant, on peut mettre plein de mots. On va accueillir deux lycéennes qui se sont lancées dans l'exercice ô combien difficile de faire une plaidoirie littéraire. Et vous allez voir leur talent et leur conviction et combien, en général, ces jeunes sont impliqués. Donc, elles sont en train de finaliser leur préparation. Elles ont un peu de trac, le trac, mais je leur ai dit qu'ici, c'était un public extrêmement bienveillant. Donc, je sais que j'ai raison. Et on va pouvoir commencer. Mais avant, je voudrais passer la parole à Magali, qui est à l'origine de l'aventure. Et pour que Magali vous explique un tout petit peu comment vous êtes arrivée dans cette démarche.
Merci. Alors, bonjour à tous. Je remercie une fois de plus le Festival du Premier Roman d'accueillir ce projet qui pourrait paraître très périlleux, puisque effectivement confier la parole à des lycéens. Alors, il y en a une qui est en seconde, vous voyez, vraiment très jeune, et puis qui vient d'avoir 16 ans. Voilà. Et la seconde est en première. Alors, la seconde a déjà eu l'expérience un peu de l'oralité, mais c'est quand même extrêmement impressionnant d'être devant vous. Alors, ce qui est aussi dans la démarche, c'est non seulement travailler l'éloquence, mais aussi travailler l'analyse d'un livre. Et vous allez voir leur expertise. Alors, ça veut dire qu'il y a deux niveaux, en fait, d'interprétation. Je pense que les gens qui ont lu le livre vont se sentir concernés, vont trouver des échos. Mais il s'agit également de donner envie de lire, bien sûr, puisque c'est une plaidoirie à ceux qui n'ont pas le livre. Donc j'espère qu'à la fin, vous allez vous précipiter vers les étals des libraires et vous allez acheter le livre. Voilà, en l'occurrence de Madame Cos qui est là, qui est tout à fait ravie de ce que je dis, bien sûr. Voilà, alors, le projet, bon, c'est d'attirer le maximum de lycéens. Voilà, cette année, il y en avait plus de prévus. Après, il faut beaucoup de courage, comme vous l'avez dit, Claire. Alors, le courage a manqué à certains qui avaient préparé leur texte. Et c'est au moment de le mettre en voix, en fait, où là, ils se sont rendus compte que non, ils n'y arriveraient pas. Donc, les deux qui finissent, là, qui sont vraiment les plus courageuses, et vraiment, il faudra les applaudir très vivement pour vraiment les remercier, les féliciter de tout ce qu'elles ont entrepris. Parce que c'est un long travail aussi. Un travail de lecture, je vous dis, déjà d'analyse, très pointu. Et puis ensuite, un travail, évidemment, d'éloquence. Voilà. Ah, merci. Alors, on va appeler la première, qui va nous parler du roman de Stéphanie Coste, qui s'appelle Daniela Palares.
Bonjour. Aujourd'hui, tout le monde est au courant de ce qu'il se passe en Ukraine et que certains pays, comme la France, accueillent des réfugiés. Et si on s'intéressait à ces personnes qui fuient leur pays natal, que ce soit pour des raisons économiques, politiques ou autres, c'est que nous nous sommes tous imaginés être confrontés à cette situation. Et nous nous sommes imaginés quelle serait notre réaction ? Nous cacher ? Faire nos bagages et partir ? Une chose est sûre, c'est que rien n'est sans doute plus déchirant que de devoir abandonner son pays, ses amis, sa famille, pour un lieu inconnu où vous êtes rarement le bienvenu. Beaucoup de réfugiés doivent traverser de manière illégale les frontières et dans des conditions terrifiantes. Et une bonne partie d'entre eux doivent traverser ces étendues d'eau sans fin. Et des personnes, que l'on va appeler des passeurs, vont les aider à franchir cette épreuve. Mais ces passeurs, ont-ils toujours des raisons nobles? Ou sont-ils juste cupides et veulent tirer profit du malheur des autres et faire de l'espoir leur fonds de commerce? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, à travers le livre Le Passeur de Stéphanie Coste, publié en janvier 2021. L'autrice va nous montrer les sentiments, les raisons et les motivations de ces passeurs. L'action se déroule en Libye, où des migrants venus d'Afrique, par exemple l'Érythrée, souhaitent traverser la Méditerranée pour se rendre en Europe. Ici, nous suivrons l'histoire de Seyoum, un personnage qui, en quelque sorte, va incarner le rôle de passeur. Nous disons ici « en quelque sorte » puisqu'il ne va pas effectuer lui-même les traversées, car il a ce qu'il appelle des subordonnés qui sont à son service. Nous savons très rapidement dans l'histoire que grâce à toutes ces traversées qui sont organisées, il a touché beaucoup d'argent. Car évidemment, ces traversées ne sont pas gratuites pour les réfugiés. Et qu'ironiquement, le tarif des enfants est le même que celui des adultes. En conclusion, il n'est pas là par charité. On nous raconte l'histoire d'un point de vue interne. On vit l'histoire à travers Seyoum. L'action se déroule aux alentours d'octobre 2015. Mais de temps en temps, nous avons des flashbacks sur sa vie passée. Ces extraits sont extrêmement importants puisqu'ils vont permettre au lecteur de mieux comprendre ce caractère très spécial. Car le lecteur peut même finir par mépriser ce personnage principal. Au début du récit, on nous le décrit comme quelqu'un de sans cœur, qui ne présente aucune émotion. Donc, évidemment, le lecteur finit par détester. C'est aussi l'une des nombreuses raisons pour lesquelles j'aime ce livre. En effet, l'autrice a réussi à nous faire haïr, exécrer ce personnage, mais a quand même réussi à nous rendre suffisamment curieux pour continuer à lire. Cependant, au fur et à mesure où l'on découvre un peu plus le passé de Seyoum, nous découvrons un tout nouvel aspect sur sa personnalité. Quelqu'un d'aimant envers sa famille et d'amoureux. Une perspective qui, jusque-là, nous semblait impossible. Comment quelqu'un d'aussi cynique et ravagé par le cat et l'alcool peut-il savoir aimer ? Voilà toute la controverse de ce livre, où l'autrice a réussi avec beaucoup de finesse fusionner ces deux caractères complètement opposés. Puis, à la suite des révélations auxquelles le lecteur fait face à propos du passé de Seyoum, nous découvrons que ce n'est pas un personnage si effroyable, qu'au fond, il n'est pas si insensible. On peut le voir notamment cette relation grâce à la relation qu'il entretient avec Ibrahim, son bras droit. Surtout lors de la discussion qu'ils entretiennent dans le chapitre 16, où Ibrahim dira que Seyoum est sa seule famille. Et Seyoum avouera qu'il a reconnu en Ibrahim le gosse qu'il était. L'une des plus grandes, importantes et décisives raisons pour lesquelles j'aime ce livre, c'est que les péripéties mettent très bien en valeur le personnage avec un caractère unique. Et que, jusqu'à la fin, nous découvrons de toutes nouvelles choses sur lui. Par exemple, lorsque le dernier convoi de l'année arrive, beaucoup de choses vont changer dans la vie de Seyoum. Comme lorsqu'il découvre que son amour d'enfance fait partie de ce groupe de personnes désespérées à vouloir faire la traversée. Ces retrouvailles le perturberont au plus haut point, puisqu'il jugera que la vie ne vaut plus la peine d'être vécue et fera une tentative de suicide qu'il qualifiera d'overdose ratée. Ensuite, Seyoum, qui jusque-là n'avait jamais dirigé de traversée, va le faire pour la toute première fois et dernière fois de sa vie. Mourra-t-il ? Survivront-ils tous ? Et Seyoum, s'il survit, décidera-t-il de rester là-bas ? Je vous laisserai découvrir par vous-même. Personnellement, je pense que la seule chose que l'on pourrait reprocher au texte serait le langage très vulgaire employé parfois. Le texte ne serait donc pas malheureusement adapté à tout le monde, puisqu'il pourrait heurter la sensibilité de certaines âmes sensibles. Mais peut-on vraiment reprocher ça à l'autrice ? N'est-ce pas ce vocabulaire qui rend les choses plus réalistes, plus percutante? Enlever ce lexique, ne serait-il pas enlever la vraisemblance du récit? Des grolles défoncées et des lambeaux de vêtements éparpillés un peu partout sur le sable blanc. La mer turquoise en arrière-plan. Ils ont à peine nettoyé après le dernier naufrage. À travers ces phrases percutantes, Stéphanie Coste a réussi à nous faire rentrer de force dans la peau de ce bourreau pour mieux nous faire comprendre cette réalité sur les migrants. Elle est parvenue à nous plonger dans un périple dont, habituellement, nous détournons les yeux. Elle a également réussi à nous entraîner par un habile mélange de répulsion et d'attraction dans les chemins tortueux de l'âme humaine. Enfin, je peux conclure que cette histoire a été addictive pour moi, puisque plus j'avançais dans les chapitres, plus il était difficile pour moi de décoller les yeux de ce texte. Les personnages sont bien caractérisés, ce qui rend l'histoire encore plus intéressante. L'autrice a su attirer notre curiosité et nous sensibiliser aux épreuves auxquelles les familles de réfugiés sont confrontées. Hélas, dans ces traversées, plus nombreux sont les corps tombés en mer que les survivants. Nous pouvons dire que Stéphanie Coste est à sa façon une passeuse capable de nous propulser dans l'enfer des routes migratoires. Une passeuse d'histoire qui donne toute sa puissance à la littérature. Finalement, la seule chose que je puisse vous dire maintenant, c'est d'aller découvrir cette histoire magnifique qui fera vibrer votre cœur et votre esprit. Merci à tous.
C'est ce que je vais faire.
Stéphanie, je vous ai vu écouter, regarder très très attentivement Daniela. Peut-être quelques mots en réponse à sa magnifique performance.
Bah écoutez, je suis un peu émue, même aux larmes, hein, parce que j'ai été époustouflée par ta performance. J'ai été époustouflée par la fluidité de ton propos. J'ai été époustouflée par la façon dont tu as trouvé les mots justes pour parler du roman. D'ailleurs, je t'emmènerai bien avec moi dans tous les festivals futurs. Parce que, honnêtement, tu parles mieux que moi de mon roman. Tu as vu aussi des choses, peut-être que moi, je n'ai pas vu. C'est ça qui est formidable aussi quand quelqu'un parle de son roman, c'est que quand il se l'approprie et tout ce que tu as dit sonnait tellement juste. Tu es une très bonne vendeuse aussi.
Merci.
Ça, je t'en remercie. Et surtout, je voulais dire, je suis assez époustouflée aussi. Tu vois, je n'ai que ce mot époustouflée, hein, j'en trouve pas d'autre pour tout ce que je te dis. Parce que quel courage de, comme ça, t'adresser à une audience en faisant une plaidoirie. Je ne sais pas si tu te destines au métier d'avocate, mais alors je te le recommande fortement. C'est fait pour toi, je pense. Et tu as aussi, c'est pas évident aussi quand on parle comme ça devant une assistance, de capter l'attention jusqu'au bout. Or, là, moi, tu m'as prise aux tripes du premier au dernier mot, parce que tu as le ton aussi qui va avec. Tu as l'éloquence, tu as le ton. Et je n'ai qu'un mot, c'est bravo, vraiment, bravo.
Merci.
Et merci pour cet hommage.
Daniela, c'est le moment ou jamais. Tu as l'auteur à côté de toi. Tu as lu, relu et son livre. Peut-être avais-tu envie de lui dire autre chose ou de lui poser une question. C'est pas obligé, mais saisis ton le moment.
Okay, bah c'est très simple, c'est juste comment l'idée de parler des migrants vous est venue, de nous faire sensibiliser, de nous sensibiliser à ce sujet en fait.
Alors en fait, au départ, pour la jeunesse, je vais la faire courte, hein, vous inquiétez pas. Mais moi, j'ai grandi en Afrique, en fait. J'ai vécu jusqu'à mes 18 ans en Afrique. Après, je suis partie en Angleterre. Après, maintenant, je vis au Portugal. Donc, j'ai une très forte notion d'exil qui m'habite beaucoup. Et voilà, donc j'avais beaucoup... Quand j'ai commencé à vouloir écrire un roman, j'avais cette idée du thème de l'exil en tête. Et puis finalement, tu vois, je me suis dit, bon, mon exil va vraiment pas intéresser beaucoup de personnes. Et quand j'ai commencé à penser à l'écriture de ce roman, malheureusement et tragiquement, c'était en 2015, qui est l'année la plus, il me semble à ce jour, qui est l'année la plus tragique en termes de nombre de naufragés qui ont traversé la Méditerranée. Et j'étais très, un peu en colère contre moi-même, hein, et contre pas mal de gens qui, tu vois, feuilletaient ces images de migrants, de bateaux qui débordaient de migrants. Et je me disais, mais en fait, c'est affligeant. Sur aucune photo, il y a marqué une légende en dessous avec le nom de chaque personne qui tente cette traversée. Donc voilà, donc du coup, ça a commencé à germer. Je me suis dit, mais c'est quand même intéressant. C'est pas du militantisme du tout, mais plutôt d'interpeller, qu'on se rende compte que c'est pas normal qu'on ne parle pas d'un destin individuel, du pourquoi du début de la traversée, parce que la traversée, c'est pas juste en plus, comme on le sait, la Méditerranée. Ça part de leur pays d'origine jusqu'à, j'espère, leur arrivée à Lampedusa. Donc voilà. Donc du coup, j'ai commencé à beaucoup me documenter sur le sujet. Comme je disais au préalable, là, pendant une intervention, j'ai été extrêmement marquée par Eldorado de Laurent Godet, je ne sais pas si tu l'as lu, qui est vraiment pour moi une référence dans ce type de littérature, hein, sur ce sujet. Et voilà, et je me suis dit, je ne vais pas faire aussi bien, ce n'est pas possible, il a déjà dit beaucoup de choses, il y a eu de très très beaux romans écrits sur ce thème. Et m'est venue du coup l'idée de prendre l'autre, de prendre l'angle du salaud, entre guillemets, et voilà, pour apporter un autre éclairage, peut-être, sur la situation.
Merci. Daniela, on va te laisser descendre de scène, de façon à passer le relais. Et je vais, le petit temps de passage, je vais saluer l'arrivée d'Abigail Assor, qui arrive directement de la gare ici. Donc là, elle ne sait pas dans quoi elle est tombée. Donc voilà, on commence par une des meilleures choses, Abigail. Hein, c'est ces jeunes lycéennes, donc là, une lycéenne qui va faire une plaidoirie littéraire pour convaincre tous ceux qui l'étaient déjà, en fait, de l'intérêt de votre livre. Hein, et donc, vous allez entendre ça et je vous demanderai après, comme pour Stéphanie, une petite réaction. Le temps que la deuxième élève arrive, Magali, tu voulais ajouter quelque chose ?
Non, oui, voilà. Non, je voulais juste ajouter un petit détail farfelu. C'est l'avocat qui me prête sa toge, puisque c'est une véritable toge, vous l'avez compris. Alors, il en a deux, hein, c'est pour ça. Il y en a une pour le tribunal de Chambéry et l'autre pour Grenoble. Et en fait, il me dit souvent qu'il ne défend que les salauds. Donc je me disais, voilà, ça tombe bien par rapport à la réponse de Stéphanie Coste. Voilà, effectivement, c'est une toche pour défendre les salauds. Ceux qu'on a le plus de mal à défendre, et il est déjà venu rencontrer mes élèves l'année passée, une classe de première, et les élèves, c'est vraiment la chose qu'ils ne comprennent pas. Comment un avocat peut défendre contre son éthique, contre sa morale personnelle, quelqu'un qui, lui, n'a eu aucune morale, a fait des actes foncièrement détestables. Et là, il a vraiment eu du mal à défendre. Enfin, il l'a fait. C'est la base même du métier d'avocat. C'est de défendre n'importe qui. Tout le monde a le droit à la défense. Voilà. Alors là, bon, on pourrait dire même les mauvais livres, mais non. Alors, en l'occurrence, parce que c'est ça, hein, si on suit mon raisonnement jusqu'au bout, mais non, en l'occurrence, là, il s'agit de défendre de bons livres. Et je voulais aussi préciser, alors vous pourriez vous dire, c'est le professeur de français qui leur a dit « lisez ce livre-là », pas du tout. Ce sont vraiment les élèves qui ont choisi, et je pense avec beaucoup de goût et de pertinence, voilà, à mon avis, de très, très bons romans. Voilà.
Parfait, oui, j'ai eu un peu peur, là. Je me suis dit, s'il faut défendre que les mauvais livres, aussi, non, mais... Voilà, nous, en tant que lecteurs dans les comités du festival, ça nous parle parce qu'on sait dans l'année tous les débats, les échanges et combien on débat autour des livres pour les défendre et pour inviter nos auteurs. Je pense qu'on va pouvoir accueillir Léonie qui arrive. Elle est en première et je vous demande de l'accueillir chaleureusement.
Bonjour. Vous êtes-vous déjà senti différent, comme si vous n'étiez pas à votre place? Avez-vous déjà ressenti ce sentiment de vide au fond de vous? Que personne n'est là pour vous, que vous n'avez que pour seule issue, vous-même. De toujours faire semblant d'aller bien, mais au fond de vous, vous vous sentez détruit, abandonné, seul. Imaginez-vous cette jeune fille avec pour seul repère l'espoir d'un monde meilleur. Une fille remplie de doutes, de peurs, mais surtout d'espoir, qui va tout tenter pour s'en sortir dans un monde qui n'est pas le sien. Le monde des riches, de ceux qui ne sont pas dans le besoin. Celui des grandes voitures, des immenses maisons avec des jardins à perte de vue. Des piscines, des terrasses et de l'argent à n'en plus compter. Cette jeune fille, c'est le personnage principal du premier roman d'Abigail Assor, publié en 2021 aux éditions Gallimard. Il est intitulé « Aussi riche que le roi ». Dans un récit au passé, Abigail Assor nous raconte l'histoire d'une jeune fille nommée Sarah, qui vit au Maroc, dans la ville de Casablanca, dans les années 1990. Cette jeune Française vit dans un quartier pauvre et a pour amis seulement des riches. Sa beauté, son intelligence et sa maturité lui ouvrent des portes jusque-là inaccessibles. Sarah s'est construite deux vies. Celle de la fille cool et riche qui s'immisce parmi les gosses de riches et la Sarah des bidonvilles. Celle où les gamins la suivent en mendiant, en vendant de la drogue et où la violence dans le quotidien des habitants est omniprésente. Mais Sarah a surtout pour but de se marier avec un garçon qui a la réputation d'être aussi riche que le roi. Être riche est l'objectif de sa vie, c'est son bonheur, son Eldorado. Pour pouvoir bénéficier de cet amour, Sarah va user de ses charmes et de sa beauté que l'on devine exceptionnelle. Elle va aussi mettre en œuvre de nombreuses stratégies pour que ce jeune homme, nommé Driss, la remarque enfin. Mais cet amour, qui devait être un amour bénéfique seulement pour une élévation sociale, va devenir un amour libérateur. Vous savez, cet amoureux paisible avec qui vous pouvez tout dire, sans être jugé, sans honte à avoir. Cet ami qui vous redonne espoir et vous libère de vos chaînes. Ce roman ne raconte pas seulement une histoire comme une autre, il a une morale très profonde. Sarah tente de survivre dans un monde qui n'est pas le sien, en se faisant passer pour la fille cool et riche qui mène une vie de rêve. Mais cette jeune fille a un passé qui n'est ni joyeux, ni enviable. Et je trouve que cette jeune fille est très remarquable, voire admirable, car vous savez, il en faut du courage pour sourire toute une journée en faisant croire à tout le monde que tout va bien dans la meilleure des vies et rentrer chez soi le soir, avoir une mère qui ne s'occupe pas d'elle, ne pas manger à sa faim, se faire insulter car elle traîne avec des riches. Et puis, retourner le lendemain matin au lycée, comme si ne rien n'était. Et ce, tous les jours. Les garçons la trouvent jolie. Sarah le sait, et elle ne va pas se priver d'exploiter cet atout unique. Par exemple, pour pouvoir manger, elle va traîner avec un garçon dans un bar, et celui-ci va payer, car c'est comme ça que ça marche. Et Sarah a très bien compris comment marchait le monde. et personne ne devine à quel rang social elle appartient. Abigail, la sœur, écrit « On pouvait voir la Française, belle et au goût des garçons. On pouvait remarquer qu'elle séchait les cours et qu'elle fumait du kiff. On pouvait la trouver solitaire, mystérieuse, méchante. Mais on ne pouvait pas deviner qu'elle était pauvre. C'était impossible. » Sarah a donc deux visages, comme nous tous. Le visage où nous sommes nous-mêmes, celui qui reflète notre véritable personnalité, et l'autre, celui qu'on veut donner. On utilise bien plus souvent ce visage d'ailleurs. Il est une forme de protection. Si on se livre trop à quelqu'un, on peut vite être trahi. Alors, se donner une image désirable, c'est maintenir les autres à distance, celle de l'admiration. Sarah est non seulement prisonnière de ses conditions sociales, mais aussi de l'image qu'elle s'est construite. Elle vit dans le paraître jusqu'au jour où elle va rencontrer Driss, un garçon plutôt laid qui ne s'ouvre pas trop aux autres. Et elle va tout faire pour qu'ils soient ensemble et qu'ils se marient. Sarah veut être riche et pouvoir vivre une vie qui ne nécessite pas de privation. Driss en est l'unique moyen. C'est donc lui que Sarah doit séduire pour se faire épouser. Je suis amoureuse de toi. C'est avec cette phrase que tout va commencer. D'ailleurs, cette phrase ne serait qu'illusion pour Sarah. Mais leur solitude va les rapprocher. Et Sarah et Driss sera le seul à entrer dans le cercle de pauvreté de Sarah. Il ne la juge pas. Il ne la laisse pas seule. Il est compréhensif, à l'écoute, et il est là pour elle. Driss est celui qui a réussi à lui faire tomber ce masque qu'elle ne quittait jamais. Que rêver de mieux ? Qui ne rêve pas d'un Driss dans sa vie ? Mais ce livre ne montre pas les inconvénients d'être pauvre et les avantages d'être riche. Sarah découvre de plus en plus la vie que mène Driss, et celle-ci ne rime pas avec joie et bonheur. Ce dernier est un enfant battu, dont ses parents se préoccupent beaucoup moins que de leur fortune. Lui aussi rêve d'une vie meilleure, et c'est avec Sarah qu'il l'a trouvée. Un jour, en se confiant à Sarah, il lui dit « Il y a tant de choses qui deviennent normales quand tu es fatigué de hurler. » Dans cette société, hurler ne suffit pas. Alors, le seul moyen est d'encaisser et de continuer comme si ne rien n'était. Driss et Sarah vont alors se mettre à rêver d'une autre vie et pourquoi pas une vie en Amérique ou en France, car il paraît que là-bas, les gens sont égaux. Certes, ce livre contient cependant beaucoup de descriptions, dont notamment des retours en arrière qui peuvent perturber le fil conducteur de l'histoire. Ces retours en arrière peuvent parfois être longs, mais certains nous aident à comprendre le cheminement de l'histoire, à comprendre par exemple pourquoi Sarah et sa mère se sont installées au Maroc, pourquoi elles sont pauvres. De plus, l'histoire entre Sarah et Driss ne commence pas directement, mais seulement après un long contexte qui nous permet de comprendre dans quel monde vit Sarah, la place qu'elle y occupe et la raison de ses choix à travers ce roman. Sarah va-t-elle parvenir à être heureuse ? En tant que lectrice, j'ai envie d'y croire. Je fais défiler les pages en quête d'un dénouement heureux et, grâce à une narration délicate, le récit nous permet de comprendre la vision du monde de l'héroïne avec subtilité. Nous l'accompagnons dans ses aventures sans pénétrer totalement dans ses pensées. Ces deux enfants, qui n'auraient jamais dû se rencontrer, aspirent à une liberté dans une société codifiée et surveillée. En tant que lectrice, je suis également consciente que la distance conservée avec les personnages maintient un mystère et suscite à la fois notre réflexion et notre curiosité. On s'attache à Sarah, à Driss et à leurs amis, et on se laisse bousculer dans un monde de contrastes où l'injustice sociale n'a jamais été aussi poignante. Driss et Sarah ne sont que de simples personnages de fiction, mais ils sont le reflet de nombreuses sociétés inégalitaires. Ces sociétés dans lesquelles les différences sociales s'accroissent de manière obscène. D'un côté, où l'on s'affiche avec ostentation dans sa voiture avec son chauffeur, et de l'autre, où l'on observe seulement ce monde à travers des grilles infranchissables. Mais Driss et Sarah sont le message que tout n'est pas perdu. L'espoir. L'espoir, c'est pour moi ce que représente ce livre. Le sentiment qu'un jour, tout changera. La misère, la peur, les divers problèmes que rencontrent ces jeunes, tout sera réglé et enfin le bonheur se présentera. Mais vous, vous ne penserez peut-être pas la même chose. Et c'est pour cela que je vous invite à lire ce livre qui mélange les plus grands thèmes de l'humanité depuis l'Antiquité. L'amour, la violence et le cycle éternel de la vie. Tant que dans le portefeuille de Driss, il y aurait des billets, ces billets, inépuisables d'aussi riches que le roi, alors chez lui, chez elle, ce serait le vrai calme. La fin de l'injustice, de la domination, de la violence. Ouvrez ce livre et enrichissez-vous à travers les simples mots d'Abigail Assor. Merci de votre écoute.
Abigail, merci. Peut-être quelques mots à dire.
J'ai été vraiment très, très impressionnée. J'en revenais pas, en fait. J'étais vraiment bouche bée. Très touchée que vous ayez compris et aimé le personnage de Sarah. Le personnage de Sarah, c'est un personnage que parfois on peut avoir un peu de mal à aimer parce que quand le livre commence, elle dit « je vais épouser ce garçon pour son argent ». Et c'est sûr que c'est pas une personnalité très éthique et morale. On finit par s'attacher à elle et j'étais touchée que vous ayez vu ça en elle. Et c'est fou parce qu'il y a tellement de lectures différentes d'un livre. Pour moi, vous disiez que c'était un livre d'espoir. Moi, en l'écrivant, je me disais que c'était vraiment un livre de désespoir. Donc... c'est un livre qui est très amer et je trouve très touchant et très positif de voir qu'il peut y avoir aussi des lectures qui y voient un côté plus lumineux. Ça veut peut-être dire que tout est contenu dans les mots et ça c'est bon signe pour la littérature. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Pareil, c'est ton moment. Tu peux poser ta question.
Je vais poser une question. Alors, j'ai une question. Comment vous êtes arrivé à écrire un livre sur une jeune fille avec un passé et des pensées comme cela ?
Oui, c'est vrai que c'est un vrai travail de fiction parce que c'est pas ni ma personnalité ni ma vie, heureusement. J'ai pas essayé d'épouser un homme pour son argent. J'avais envie d'écrire un livre sur la domination sociale au Maroc. J'avais envie de le faire à travers des archétypes de contes de fées. Donc la jeune fille très pauvre mais très belle et le garçon très laid et très riche. Et je voulais jouer avec ces archétypes-là. Et puis les détourner. Et j'ai imaginé le personnage de Sarah un peu comme à la fois le personnage qui est le plus loin de moi et le plus étonnant et pas forcément aimable. Et en même temps, je pense que Sarah, c'est le genre de jeune fille que j'aurais aimé être, moi, parce que j'ai vécu au Maroc jusqu'à mes 17 ans, comme Stéphanie qui a vécu en Afrique jusqu'à ses 18 ans. Et je pense que j'aurais aimé avoir son insolence et sa capacité à remettre en question un système qui est très pesant, qui est très injuste. Sarah, même si elle emploie les moyens qu'elle emploie, elle a une sorte d'insolence et de rébellion que j'aurais aimé avoir. Et donc, j'ai développé ça dans la fiction, à défaut de le développer dans la vie.
Ok, merci.
C'est bon pour toi ? C'est tout bon. Bon. Tu veux dire quelque chose, Magali ?
Je voulais juste dire que moi je trouve que c'est un heureux hasard. Je pense qu'il y a des points communs entre, alors déjà l'Afrique bien sûr entre vous deux, et puis en fait deux personnages qui sont très ambivalents. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte, parce que c'est ça, hein, effectivement vous faites tout pour qu'on les déteste. Vous l'avez dit vous-même, vous êtes surprise que en fait Léonie ait pu s'attacher. Donc ça aussi c'est difficile, c'est périlleux. Enfin moi je vous trouve courageuse aussi dans votre choix de personnages, voilà, donc ça crée aussi un personnage. Et puis aussi, autre point commun, l'Afrique, des personnages ambivalents, et puis le fait qu'on est toujours à la frontière entre le paradis et l'enfer, en fait, dans vos deux livres. Voilà, ça c'est ma plaidoirie que je n'ai pas faite, parce que c'est pas le but. Voilà, donc merci mesdames, voilà. Peut-être merci. Que vous allez pouvoir dédicacer vos livres aussi, peut-être, voilà. Ouais. Voilà. Merci beaucoup.
Donc je vais clore ce moment avec des remerciements bien sûr pour vous deux, les élèves qui vous êtes lancés dans cette aventure, et je pense que ce sera un moment que vous n'oublierez peut-être pas, parce que c'était un sacré défi. Merci pour ce partage avec nous. Je pense qu'on est tous bluffés, parce qu'on serait certains d'entre nous, et moi la première, en difficulté de faire aussi bien, hein, et aussi travailler. Donc c'est, voilà. Merci à Magali qui pilote tout ça et aux personnes qui l'aident.
Voilà, oui, il y a alors Madame Loff, Karine Loff, qui vient me soutenir au moment où c'est difficile de gérer à la fois l'entraînement oral, voilà, des deux jeunes filles. Voilà. Donc c'est une intervenante qui intervient dans beaucoup de lycées d'ailleurs de Chambéry, brillamment. Voilà, pour tout ce qui est de travail de l'oral, parce que toute seule c'est difficile aussi.
Voilà. Et saluer ce partenariat avec le lycée Monge qu'on poursuit depuis plusieurs années autour des plaidoiries. Mes partenaires lycée, partenaire incontournable du festival depuis tout le début de notre histoire. Et j'espère que ça continuera. En tout cas, moi, l'année prochaine, je suis là. Hein, donc, voilà. Merci aux auteurs qui ont répondu et qui sont nous honorent, on va dire, de leur présence. Un petit moment éventuel de dédicace, bien que je sais qu'Abigail ait un timing un peu serré par rapport à des rendez-vous assez tôt cet après-midi. Les livres sont là-bas au fond. Et puis, si vous êtes resté sur votre faim, d'abord c'est normal vu l'heure. Et ensuite, vous savez qu'il y a encore 2 jours et demi pour les rencontrer, les questionner. Donc, ne vous privez pas. Bon après-midi.